Vous êtes bien sur RFI, c'est le journal, 1h du matin à Paris comme à Kiev.
Théo Renaudon.
Dénouement du Festival de cinéma de Cannes, Palme d'Or attribué au réalisateur Jafar Panahi pour un simple accident, c'est le nom de son film. Quelle influence des droits de l'homme sur la politique migratoire européenne? Des pays veulent limiter l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les affaires d'immigration. Et puis, il ne pleut pas assez dans le nord de l'Europe, la région subit une rare sécheresse. Ce n'est donc finalement pas seulement un simple accident, c'est désormais un film avec une palme d'or. Un simple accident, c'est le nom du film qui vient d'être primé à Cannes, film signé par le réalisateur perse-iranien Jafar Panahi, lui qui a connu les geôles de la République islamique et donc récompensé pour ce conte moral, récit de désir de vengeance d'un ancien détenu iranien qui ira jusqu'au pardon. Guillaume Thibault a suivi pour nous cette soirée.
Pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi.
Ému, les yeux embués sous ses lunettes fumées, Jafar Panahi est monté sur scène avec tous ses acteurs et ses proches. Une solidarité affichée et une consécration pour le réalisateur 15 ans après son dernier passage au Festival de Cannes.
Je crois que c'est le moment pour demander à tous les gens, tous les Iraniens avec toutes les opinions, en Iran ou dans le monde, mettons tous les problèmes, toutes les différences à côté. Le plus important en ce moment, c'est notre pays et c'est la liberté de notre pays.
La présidente du jury, Juliette Binoche, engagée dès le début du festival pour revendiquer des droits pour les plus faibles, a justifié la décision de décerner cette palme d'or à Jafar Panahi pour son film « Un simple accident ».
L'art provoque, questionne, bouleverse, par une humanité partagée pour la liberté retrouvée. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle.
Dans un simple accident, un tortionnaire se retrouve kidnappé par ceux qu'il détenait et maltraitait. Jafar Panahi nous interroge ainsi sur la vengeance, sur le pardon. Vu l'état du monde, des questionnements qui dépassent les frontières de l'Iran. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Massacre au Nigeria. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans deux attaques présumées de bandes armées dans le nord-est du pays. C'est ce qu'assure le gouverneur de l'état de Taraba et des villageois à l'AFP. Une vague de violences meurtrières est en cours au Nigeria depuis plusieurs semaines. Attaques menées par des djihadistes. Nouvelle attaque de drones russes, cette fois sur Kiev. Une quinzaine de drones ont été neutralisés dans le ciel de la capitale ukrainienne. La ville ne dort qu'à moitié pour la deuxième nuit consécutive. Les autorités avertissent d'un fort risque de missiles imminents. La nuit dernière, une attaque du même genre a fait 15 blessés. Cela intervient après la deuxième phase d'échange de prisonniers entre Russie et Ukraine ce samedi. 307 soldats et civils ont pu rentrer chez eux au lendemain de 390 autres. Au total, un millier de captifs doivent être échangés de chaque côté d'ici ce dimanche. C'est le plus important échange depuis le début de la guerre. Seul résultat concret des pourparlers d'Istanbul de la semaine dernière. À la fin de cet échange, la Russie doit remettre un document avec les conditions d'un cessez-le-feu. C'est ce qu'a promis la diplomatie russe ce vendredi. Le géant de l'acier japonais Nippon Steel applaudit Donald Trump. Le président américain soutient le rachat du groupe états-unien US Steel par les Japonais. Cela créera au moins 70 000 emplois et rajoutera 14 milliards de dollars à l'économie américaine. S'est réjoui Donald Trump, qui a donc changé d'avis, lui qui s'opposait fermement à toute fusion. À Tokyo, ce revirement crée la surprise dans le milieu d'affaires japonais. Correspondance Frédéric Charles.
Nippon Steel rêvait de racheter US Steel depuis décembre 2023. Mais en pleine campagne présidentielle américaine, démocrates et républicains s'étaient unis dans une réaction protectionniste viscérale aux relances anti-japonais pour briser le rêve de Nippon Steel. Aujourd'hui, le géant japonais de l'acier salue la décision de Donald Trump. Ce partenariat change la donne, dit-il, pour US Steel et l'industrie sidérurgique américaine. Le gouvernement japonais avait très mal pris l'hostilité de l'administration américaine envers Nippon Steel. Le Japon est le premier investisseur étranger aux États-Unis, son allié numéro un en Asie. Chris Richter, l'analyste automobile de la banque CLSA à Tokyo, laissait entendre que le président américain avait une conception erronée des pratiques commerciales japonaises datant des années 70, quand le Japon faisait trembler le monde. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
9 djihadistes d'Al-Qaïda tués dans des frappes américaines au sud Yémen, c'est ce qu'indique l'AFP de sources yéménites. Ce chiffre impressionnant qui témoigne de la nature répressive de l'ancien régime syrien du tyran Bachar al-Assad, 8 millions de Syriens étaient recherchés par ses services secrets, ça fait un tiers de la population au total. Une majeure partie avait participé au printemps arabe de 2011, tous étaient accusés de terrorisme, c'est ce qu'ont révélé les nouvelles autorités syriennes ce samedi. Pas question de changer les règles de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe, qui chapeaute cette cour, riposte à l'offensive lancée cette semaine par 9 pays européens, coalition emmenée par l'Italie, le Danemark, appelant notamment à repenser la manière dont la Convention européenne des droits de l'homme est interprétée. Ces pays veulent réduire son influence sur la politique migratoire européenne. Julien Chavannes.
Maintenir l'indépendance et l'impartialité de la Cour européenne des droits de l'homme est fondamental. Aucune juridiction ne devrait être soumise à des pressions politiques. Réponse claire et nette d'Alain Berset, le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Dans un communiqué, il rappelle qu'il ne faut pas affaiblir la Convention européenne des droits de l'homme, mais au contraire la garder solide et pertinente. L'Italie, le Danemark, l'Autriche, l'Estonie, la Pologne ou encore la Belgique aimeraient bien détricoter ce texte fondamental pour avoir plus de liberté dans leur politique migratoire. Selon eux, la Cour européenne outrepasserait ses pouvoirs. La CEDH a un passif avec plusieurs pays signataires de cette lettre. L'Italie a par exemple été condamnée pour les conditions d'accueil à Lampedusa, qualifiées d'inhumaines et dégradantes. Et de son côté, le Danemark a été sanctionné pour une expulsion jugée abusive. Sur notre antenne, l'ONG CCFD Terre Solidaire a dénoncé un argument irrecevable, une fausse excuse pour expulser sans obstacle les personnes étrangères vers leur pays d'origine ou vers des pays tiers, et cela quel que soit leur situation.
Julien Chavannes du service international de RFI. L'auteur présumé de l'attaque au couteau de ce vendredi en Allemagne présente des troubles psychiatriques. L'attaque a fait 18 blessés. La police allemande exclut donc tout mobile politique. Dans le nord de l'Europe, l'eau ne tombe plus du ciel. La région connaît une sécheresse exceptionnelle. De l'Écosse aux Pays-Bas en passant par le nord de la France, la pluie se fait attendre. Situation d'autant plus étonnante que les deux dernières années avaient été marquées par des pluies torrentielles, voire carrément des inondations. Une question dans ce nouveau monde, comment adapter les cultures? Serge Zaka est docteur en agroclimatologie. Il explique que la sécheresse touche seulement les sols pour l'instant, mais elle a déjà des conséquences sur les nappes phréatiques.
Pour l'instant, avec tous les excès d'eau qu'on a eu, notamment ces deux dernières années, on a des nappes phréatiques qui sont à des niveaux satisfaisants, avec des manques très locaux, ceci dit un peu plus au nord de l'Europe. Mais en tout cas, sur la France, on a des excès parfois par rapport à la période de l'année. C'est ça qui est intéressant, c'est que malgré cette sécheresse de surface, on peut irriguer, on n'est pas sur des limitations d'irrigation. Ceci dit, malheureusement, dans le nord de la France et le nord de l'Europe, les systèmes d'irrigation sont beaucoup, beaucoup moins présents que dans le sud de l'Europe, parce qu'on est moins habitué à ce type de sécheresse. Et donc, tout le monde n'est pas équipé en irrigation. Tout le monde n'a pas accès à l'eau. Et c'est vrai qu'il est inhabituel d'irriguer du blé. C'est plutôt les cultures d'été qu'on irrigue. Donc là, on est en train de taper dans les réserves de l'été en espérant que les pluies qui reviennent soient suffisantes pour garder des nappes phréatiques assez hautes.
À l'inverse, en Australie, il a bien trop plu. Le bilan des inondations en Australie est porté à 5 morts, des pluies torrentielles cette fois, qui ont pris au piège 50 000 Australiens dans le sud du pays et qui sont toujours pris au piège. La décrue commence ce samedi. La finale de la Coupe de France, désormais victoire logique, presque mécanique, du PSG face à Reims 3-0, le club parisien qui soulève son 16e trophée du genre à une semaine d'une finale bien plus importante dans le cœur des supporters cette fois, la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition dans 50 minutes.